Dans ce magazine, nous allons parler des migrantes et des migrants. Alors, on ne va pas vous refaire tout l'historique. Hein. Vous le savez, le camp de Calais a été évacué à la fin de l'année 2016. Les personnes qui s'y trouvaient ont été dispatchées hein, à travers la France. Et une partie est arrivée en région Occitanie, et même en Haute-Garonne, et même à Toulouse. Voilà, et on reçoit certaines de ces personnes autour de cette table, ainsi que Sandra, membre du collectif Solidarité Migrants-Migrantes 31, qui vient de se former. Alors, autour de la table, nous avons Ahmed, nous avons Sahal et nous avons Ousmane et nous avons également Malek qui est venu assurer la traduction. Merci d'être là. Merci à tous. Malek qui est venu assurer la traduction car évidemment ces personnes ne parlent pas français, certaines parlent un petit peu anglais, mais enfin voilà, ce sera plus simple pour l'interview de le faire en arabe. Voilà, alors peut-être pour démarrer, sans rentrer forcément dans les détails, mais on va demander un peu de vous présenter, quels sont un peu d'où vous venez, quels sont vos parcours. Voilà, très rapidement.
Moi, j'aïn, شو محلكم هون من امتى جيتوا هون بالضبط؟
جينا هنا شهر 10.
On est venu ici le mois d'octobre.
D'octobre. Il est venu de Calais, il est venu de Toulouse.
À Toulouse.
كنا في كالي وجانا مدير الأوفرا هناك.
On était à Calais et l'OFPRA nous a envoyé ici à Toulouse.
وقال الناس تطلع من المعسكر بتاع كالي وهي زول عنده مشكلة نحن حنحلها له أي شخص عنده مشكلة نحن حنحلها له.
Il nous a dit que si vous rencontrez n'importe quel problème, on sera ici pour résoudre tout ça.
جاوب البساط قالوا تركبوا في البساط لكن ما عارفين كان البساط مش عليه وين يعني.
On est monté dans les bus mais on savait pas dans quelle destination on y allait.
وإحنا ركبنا في الباص من الباص جابونا تولوز.
Et on est arrivé à Toulouse.
Donc là, c'est Ousmane hein, qui parlait. Ousmane, on peut peut-être lui demander combien de temps tu es resté à Calais.
Adesh Bitobi Calais.
4 jours.
4 mois.
4 mois à Calais. D'accord. On va continuer le tour de table et puis on reviendra, évidemment. Ousmane, juste pour savoir de quel coin du globe tu viens.
Anouma Kanjaï Ntem.
Anjaï Ntaria. من ليبيا لإيطاليا.
لا من وين من أنو بلد أنت جاي؟
أجا من السودان.
من وين؟
السودان.
Du Soudan.
Du Soudan, et puis on aura peut-être compris hein, qu'il est passé par l'Italie. Hein, voilà. Ce qui a son importance, notamment en cas de dublinage, mais on expliquera ce que c'est tout à l'heure. Sahal.
Donc. Sahal, marhaba.
Sahal est érythréen, hein, c'est ça?
Oui.
Tu étais à Calais aussi? You were in Calais?
Yeah. I'm coming from Calais.
Il est à Calais. Combien de temps tu es resté à Calais?
Can you ask me in English?
Adesh Adwi Calais?
Maybe I'm going to write 3 months. That's a short film.
3 mois.
3 mois, 3 mois. Et enfin, on a Ahmed avec nous.
In Calais, this jungle. In jungle.
Bien sûr, dans les camps de Calais, dans la jungle. Hein, comment?
In the jungle by the tent. And like, you know, difficult life. And after we move in anyway. By, like Sam is told us this guy. Is coming someone from the government, is working with the government, he say like this, and he's making some meeting with the people. And he's like, he's saying, oh, we have to leave this place, the jungle, because maybe like 8,000, 9,000 people, that time is living in the jungle by the tent, and too many charity is there from everywhere. From England, from
alors,
Belgique,
I will translate. Donc, il nous dit, hein, Sahal, qu'il était donc à Calais depuis 3 mois, qu'il vivait dans la jungle. Hein, donc, le terme, qui a été, quand même, il faut le dire, inventé toute pièce par les médias. Hein, c'était tout simplement des camps. Hein. De réfugiés, il disait que les conditions de vie étaient difficiles, il disait qu'il y avait 8000 personnes.
8000 personnes.
Hein, oui. C'est ça qu'il a dit, je crois que j'ai rien oublié.
Non, qu'ensuite voilà. Ils ont été dispatchés en effet partout en France voilà, pour exploser ces 8000 personnes.
Voilà. Et comme nous le disait Ousmane, et donc ces gens-là, ces personnes ont été dispatchées et ils ne savaient pas où ils allaient évidemment. Hein. Voilà. Et dernière personne donc, qu'on n'a pas entendu, c'est Ahmed. Ahmed, donc, juste pour savoir à peu près d'où tu viens, combien de temps tu es resté à Calais?
Je viens de l'Érythrée. J'ai resté à Calais pour 1 an. Et ça fait 3 mois que je suis sur Toulouse.
3 mois, oui. Donc, vous êtes tous arrivés plus ou moins en fin octobre, hein, autour du 24. Ouais. Voilà. Tous les trois, vous étiez à Calais parce qu'on imagine vous vouliez rejoindre les Royaumes-Unis. Hein.
Quand tu fais Calais, je suis allé à la Bretagne, ma hec.
Ok. Yeah.
Oui.
C'est ça.
Finas, il y a des gens qui sont en Finas. زهد في الأوروبا زهد معناها ما عنده ما عنده الأوراق دبلين بلا بلا you know the Dublin he's giving headache yeah. and you live in the jungle that's better for you because okay. you don't have you know in the system you don't have the paper you can't work you can't do that's you better for you to stay in the jungle to live in the jungle
oui.
because in Europe you don't have any paper anything.
Voilà, ça, elle dit qu'évidemment, comme ils n'avaient pas de papier, pas d'argent, rien, finalement, vivre dans la jungle, hein, vivre dans le camp de Calais, ça permettait au moins de, j'imagine, de se protéger un peu, de bénéficier de l'entraide des uns et des autres, et peut-être aussi de quelques aides extérieures.
Oui, oui, tout à fait. Et puis, y a eu cette promesse aussi par rapport à Dublin. Et pendant cette période-là, du coup, en tout cas, ils étaient protégés de cette procédure.
Alors, on va préciser ce que c'est la procédure Dublin, parce qu'elle est au cœur là, des revendications et du mouvement qui a lieu en ce moment. La procédure Dublin, bah, je te laisse Sandra peut-être la présenter.
Ouais. Du coup, la procédure Dublin, ça consiste à renvoyer les personnes qui font une demande d'asile dans un pays, dans le premier pays dans lequel ils ont été arrêtés, et donc où il y a eu une prise d'empreinte digitale. Donc pour la plupart, ça peut être l'Italie, ça peut être
la Bulgarie, la
voilà,
Grèce.
C'est ouais. ça. Ah. Et donc quand ils font leur demande d'asile en France, la préfecture, le gouvernement français prend contact avec ce premier pays qui est évidemment, il y a un lien en fait internet, il y a tout un, je sais pas comment dire,
un fichier commun,
voilà,
ouais.
qui fait que quand ils reprennent leurs empreintes en France, ils sont repérés comme ayant traversé un autre pays et donc ils sont renvoyés dans ce pays-là. Et du coup, la revendication, là, c'est qu'il leur a été promis qu'ils ne seraient pas dublinés s'ils acceptaient de partir de la jungle de Calais.
C'est ça. Alors, juste pour préciser, certaines personnes ont refusé de monter dans les bus hein, et ils l'ont fait au final parce qu'on leur a dit « Non, non, mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas de procédure Dublin
tout
pour
à
vous. »
Fait, tout à fait. Ça a été caché sous un acte humanitaire à ce moment-là. Ils seront mieux en étant hébergés dans des CAO un peu partout en France et avec cette promesse qui, évidemment, a fait basculer la décision de monter dans les bus.
Moi, j'avais une question sur la procédure Dublin. Est-ce que ça concerne que les demandes d'asile ou est-ce que ça concerne aussi toute autre sorte de demandes de régularisation de type de séjour ou autre ?
Oui, ça concerne dès l'instant qu'en fait on arrive en tout cas sur le pays en France et qu'on fait une demande de papier, quel qu'il soit en tout cas, ou un titre de séjour, une demande d'asile, d'être réfugié ou autre, si on est fiché, on est renvoyé dans cet autre pays.
D'accord.
Alors on revient vers Ahmad Sall et Ousmane du coup pour peut-être savoir. Du coup, Ousmane nous disait qu'il était arrivé par l'Italie, c'est ça ? Donc là, le risque ce serait d'un renvoi vers l'Italie. Hein.
J'ai vraiment peur.
Italie.
Ok. Le directeur de l'OFRA nous a promis que n'importe qui a fait qui a eu des empreintes, il ne sera pas envoyé en Italie. Mais quand je suis arrivé à Toulouse,
préfecture.
Quand je suis allé à la préfecture à Toulouse, on m'a pris les empreintes et ils m'ont dit qu'ils vont m'envoyer en Italie.
D'accord. Vous, c'est l'Italie aussi, hein. On a entendu ça. Tu parlais de l'Italie.
Vous êtes allé en Italie, hein, Takaban?
Oui.
Abra Italia.
Ana kunta Italia.
J'étais en Italie.
Adi, achi, ana long time fihna.
Sali.
Ana kunta Italia, kunta England. Adi mishkala Dublin.
Ok. J'avais un problème même en Angleterre parce qu'avant j'étais en Angleterre et à cause de Dublin, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu rester dans un endroit fixe. انت جيت عبر ايطاليا وكنت في انجلترا و
لكن المشكله انوي في النهايه الدبلن
اوكي هي انت
وبعدين جيت الجانجل عشان بسكن في الجانجل معناها ما عندي اوراق ما عندي احسن لي بسكن في الجانجل فري فود فري ايفرثينج
اوكي شي اريفي ا كالي ان فيت جوست باسكو جافي بلو دو مويان بور سورفيفر
oui oui bien sûr c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure que du coup vivre dans la jungle ça permettait au moins de survivre en attendant ouais. Et Ahmed tu es arrivé aussi par l'Italie
وصلت عبر ايطاليا Oui.
C'est le premier pays. Voilà. Donc là, on est dans un cas où, si la procédure Dublin s'appliquait, ce serait à l'Italie de traiter les demandes d'asile, alors qu'on a bien compris que ces trois personnes veulent aller au Royaume-Uni, hein, à la base. D'accord. Comment ça se passe, peut-être, la vie dans les CAO, donc ces centres d'accueil et d'orientation. Alors, on va juste dire un mot rapidement, quand même, pour le situer aux auditeurs qui ne le savent pas. Ces centres d'accueil et d'orientation, ils ont été lancés, un peu dans la précipitation d'ailleurs, fin 2015, en octobre 2015, donc c'est pas très vieux. Et, bon.
2016.
Non, lancé en octobre 2015.
Ah oui, pardon.
Voilà. Et c'est donc des bâtiments liés à l'État, ou appartenant à l'État, en tout cas, ou loués par l'État, qui ont vocation à recevoir temporairement les migrants, hein, donc c'était un peu une solution comme ça mise en place rapidement pour faire face à ce qu'on appelle la crise migratoire, c'est-à-dire cette arrivée massive de personnes qui soit fuient la guerre, soit cherchent des conditions de vie meilleures, hein, en Europe. Mais évidemment, ça pose de gros problèmes parce que bon, bah, tout ça a été mis en place sans vraiment de suite possible. Alors les suites possibles, ça pourrait être éventuellement des demandes d'asile, donc des envois en CADA, en centre d'accueil des demandeurs d'asile. Ça peut être aussi des renvois vers des centres de rétention. Enfin voilà, ça. C'est un accueil, un hébergement certes, temporaire, mais surtout c'est un centre de tri, hein, comme le disait tout à l'heure le communiqué du CAT d'Albi. Hein.
Oui, tout à fait. C'est vraiment très temporaire, d'autant plus qu'on sait que certains CAO n'ont des financements que jusqu'en mars, ce qui veut dire que pour les personnes qui sont accueillies dans ces CAO-là, ils ne savent pas encore où est-ce qu'ils seront hébergés par la suite. Et ensuite, après, ce qui est difficile de savoir, c'est que nous, on n'a pas des contacts avec tous les CAO, puisque certains CAO sont fermés aux collectifs de soutien par rapport aux personnes migrantes. On est en contact avec certains, du coup, ce qui nous permet de voir un peu les conditions d'accueil. Et ce qui est difficile, c'est que donc, dans certains CAO, ils peuvent arriver à 40 migrants et il y a très peu de travailleuses ou travailleurs sociaux. Ce qui fait que dans les dossiers, dans les suivis, dans les accompagnements médicaux, les demandes de papier, l'accompagnement à la préfecture, ce genre de démarche, ça fait beaucoup de travail. Et en réalité, je ne sais pas comment dire, mais ça demande du temps, ce qui fait que les démarches s'étalent énormément, quoi.
D'accord, alors il y en a au moins 8 en Haute-Garonne, selon vos décomptes. Alors sur Toulouse, on peut parler de Lavage, de Purpan, des Pradettes, de Cassel-Ardite, voilà. Sur la Haute-Garonne, il y a aussi Bagnères-de-Luchon, enfin voilà. Donc, et en octobre 2016, on en comptait au moins 71 dans toute la région Occitanie. Hein. Donc Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Comment ça s'est passé? Alors là, c'est une question que je pose à tout le monde. Je te demande, merci Malek de traduire. Comment ça s'est passé l'arrivée dans le CAO? Est-ce que vous avez été bien reçu? Est-ce qu'il y avait des gens? Tout à l'heure, Ousmane, tu disais que l'OFPRA, alors l'OFPRA, on précise ce que c'est quand même?
L'OFPRA, ouais, l'OFPRA. Alors l'office, voilà, je ne l'ai plus en tête.
C'est pas obligé de donner le sigle, mais...
Ouais. Bon, en tout cas, c'est le bureau qui reçoit les demandes d'asile, les demandes de papier, et qui ensuite va étudier et mettre en place des entretiens pour vérifier la véracité des propos des gens qui arrivent du Soudan ou d'Érythrée, etc. D'ailleurs. Pour donner oui ou non le titre de réfugié.
L'OFPRA, c'est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Voilà, merci.
On a le sigle, merci Julien. Donc Ousmane tout à l'heure disait, oui, l'OFPRA nous a dit, on sera là pour vous recevoir, etc. Est-ce que cet accueil, est-ce qu'il y a eu vraiment des gens pour accueillir? Est-ce que quand vous êtes arrivé sur Toulouse, vous vous êtes senti reçu par des personnes qui vous ont expliqué? Ou c'était, voilà, bon, on aimerait bien avoir ce témoignage-là.
On va parler de CAO, le morceau tout là-haut. Est-ce que vous avez senti que vous avez un retiage, بالراحة الناس عم تساعدكم
في سيا والله ما مرتاحين لكن بعض في بعض المنظمات في 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 في, 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 في ما في سيا وذاته في جندخ منطقة جندخ
à CAO c'est pas très confortable oui. Mais par contre il y a des collectifs qui nous aident
بيقدموا لنا المساعدات وواقفين معانا ويعني واقفين معانا اكثر من الناس في CAO
et qui nous aident vraiment plus aux gens qui travaillent dans la CAO
D'accord, les collectifs plus que les personnes qui vous ont reçu. Il y a du monde qui travaille dans ces CAO, vous êtes
finance habi shtoulou bi CAO finance adesh kam wahed
la fi el munazama ta CAO
et
trois
personnes qui travaillent à la CAO Mais ils ont l'incapacité de nous offrir toutes ces aides. Pardon. Ok. Ils nous disent que l'alimentation, elle est pas très correcte. Voilà, ce qui nous donne à la CAO. J'ai pas d'autre chose à ajouter, c'est pareil.
C'est des...
On a l'impression qu'il nous aide comme si ça fait des années qu'on est sur Toulouse, mais en fait on connaît rien sur Toulouse. On a vraiment besoin beaucoup plus d'aide, et comme on n'a pas de sous, donc forcément on est dans le chaos.
Alors c'est juste pour imaginer, parce que moi je me rends pas bien compte, les situations sont peut-être différentes, mais c'est des chambres individuelles, c'est des chambres à plusieurs, c'est des dortoirs.
Ok, donc dans chaque pièce il y a quatre chambres.
Quatre lits, hein, c'est ça. Oui, d'accord. D'accord. Et est-ce que quand vous êtes parti de Calais, on vous a mis dans des bus, vous avez pu... J'imagine qu'il y avait des gens qui étaient avec des familles, mais il y a aussi des amitiés qu'on a dû se créer, des liens comme ça. Est-ce que vous avez pu partir avec des personnes que vous connaissiez, rester quand même avec des gens qui vous aviez créé une relation, avec qui vous aviez confiance ?
Voilà, ouais. Ils me disent que voilà, que normalement on a beaucoup plus confiance aux gens du collectif ou de tout ce qui nous aide en fait en solidarité. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de faire toutes ces connaissances. Ouais. Il me dit que merci à Sandra qu'elle nous aide beaucoup.
Non, mais alors la question, c'était plutôt, est-ce que les personnes qui sont devenues leurs amis parmi les migrants, par exemple à Calais, est-ce que à Calais ils ont rencontré des gens, est-ce que ces personnes-là, ils ont pu rester par exemple avec des amis qui s'étaient fait à Calais, des gens avec qui ils avaient une relation forte, est-ce qu'on les a autorisés à partir avec qui ils voulaient, quoi?
لما جيتوا على تولوز كان ضمن اختياركم يعني جيتوا مع اصدقاء حسنتوا تمنوا ولا كان بشكل عشوائي
شغل عشوائي ما جينا مع اصدقاء
ولا في اوكان شوا ان فيت ولا في اوكان شوا
لا يوقف البص
لحالي جيت ما عندي صديق ما عندي اي واحد
quand je suis arrivé à Toulouse je connaissais personne
ما ورونا ابن احنا نجي لتونس.
On est monté sur les bus, on connaissait même pas notre destination où on y allait, et forcément on était dispersé dans les bus et on connaissait pas presque personne.
Vous connaissiez pas les personnes avec qui vous étiez, oui, d'accord. Voilà. Ok, d'accord, c'était une question. Est-ce qu'on se ferait pas une petite pause musicale avant de continuer évidemment qui sont les CAO et puis de parler un peu plus des problèmes administratifs et des revendications évidemment des migrants migrantes qui sont actuellement en CAO.
Ouais, on va s'écouter une petite chanson allemande de Kolja and Typhoon qui sont des antifas allemands et qui nous présentent No Border, No Nation.
No border, no nation. Schwarz, Rot, Gold im Krater, Brot voll. Unnütze Migranten sitzen in Abschiebehaft. Und der Staat schiebt sie ab. Schweigen ist akzeptabel, darum kämpfe ich der Wahl. Kein Mensch ist illegal.
Border No Nation, Kolja und Typhoon, des petits rap antifa allemands.
Et nous sommes toujours dans le magazine de Canal Sud 92.2 FM. Nous parlons avec Ahmed, Sal et Ousmane de leur situation. Ils sont actuellement dans des centres d'accueil et d'orientation sur Toulouse. Hein. Ils étaient dans les camps de Calais. Ils ont été évacués de force et ils se sont retrouvés donc sans le vouloir, hein, c'est ce qu'ils nous expliquaient, sans même savoir où ils allaient, à Toulouse. Il y a également avec nous Malek qui a eu la gentillesse de venir traduire, merci. Et Sandra du collectif Solidarité Migrants Migrantes 31. Pendant qu'on était hors antenne, on parlait justement de cet aspect linguistique, du problème de la langue. Hein. Ousmane nous disait que c'était très compliqué des fois, le fait de ne pas parler la langue, et évidemment, c'était très compliqué de se faire comprendre, de se faire entendre.
اللغة صعبة عليك انه شو بتخلي لك مشاكل صعوبة اللغة هون
ما تقدر تتعب انت اللغة ما مرتاح عشان كده هي ما زالت صعبة مسألة انا ما مرتاح عشان اقدر اتعلم
psychologiquement on est déjà presque détruit et on n'a même pas le temps de se débrouiller entre nous et déjà la langue nous pose un grand problème avec la société française.
Et c'est pareil pour vous là, vous sentez cet obstacle là avec la langue
Ahmed
Sal.
Pareil. La langue française, elle est difficile déjà. Au début, c'est compliqué, mais ensuite, on aura la capacité, certainement, avec les jours d'apprendre la langue. Ça fait 3 mois qu'on est ici, on n'a même pas de personne qui nous enseigne le français. Mais malgré qu'on a 2 cours par semaine, mais les cours ne sont pas vraiment destinés pour nous apprendre correctement la langue.
Il y a 2 cours par semaine avec tous les gens du CAO, 2 cours de français par semaine.
Fi darsen lakel darsen bel esbou lakel chi mawjoud bel CAO. En fait, ce sont des bénévoles qui nous aident et qui ont pris la décision de nous apprendre un peu la langue française. Mais ce ne sont pas des professionnels.
D'accord, oui, ce sont des gens des collectifs de soutien, du coup.
Voilà.
D'accord. Par rapport à cette histoire de langue, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de traducteurs, qu'il n'y a pas de gens qui sont là en permanence pour traduire, du coup, dans les CAO. On comprend bien ça.
Déjà, on est des gens des pays différents, donc enfin forcément on a un problème de linguistique entre nous, entre migrants et même avec les gens qui travaillent à la CAO.
Malabis, akil, masarif, tadris,
Ok. Il nous dit que vêtements, alimentation et apprentissage de langue, c'est, on était vraiment dessus avec tout ce qu'il nous a offert.
D'accord, oui, d'accord. Ça, c'est déçu de ce qui est proposé. Oui, d'accord. Et tout à l'heure, tu disais aussi, Ousmane, bon, toi, tu disais, on a quitté la guerre et finalement, on arrive dans un chaos où on a l'impression que personne ne peut, n'arrive à nous entendre ou ne veut nous entendre.
أنا تركت الحرب أنت قلت من شوي إنه أنا تركت الحرب وهلا وصلت لهون ولقيت إنه إحنا طلعنا مشاكل وجينا مشاكل تانية.
نعم.
ليش شو شعورك بالقصة هاي؟
أنا طبعاً أكيد يعني ما نفسياً ما مرتاح لأن أنا هناك أنا أصلاً كان معاني في مش في 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 بلدي معاني كان في مشاكل في قتل وحرب.
Comme je vous ai dit tout à l'heure psychologiquement pardon je suis complètement anéanti et du coup je suis sorti d'un pays où il y a une guerre et maintenant ici où je me sens même dans un chaos linguistique et autre.
جيت على فرنسا لهون عشان أنا أتلقى حماية وأتلقى أن.
Je suis venu ici à la France pour avoir un titre de protection.
عشان أقدر أنا أكون زون مستقر وآمن.
Pour vivre dans des zones vraiment dans des zones non guerre et vraiment dans des zones protégées et c'est pour ça que je suis ici en France.
لكن تفاجأت بأن أنا قد جيت لقيت الوضع في 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 سيهو نفسيا يعني ما ارتحت.
Mais franchement la CAO m'a donné un autre exemple de ce que je croyais sur l'exemple d'accueil.
يعني من معاناة لمعاناة من معاناة حرب لمعاناة هنا نفسية.
D'accord. Donc je suis sorti d'un problème à un nouveau problème.
فما قادر استغري يعني نفسيا كنت تفكيري طبعا يعني نو ما قادر انام انا نو ما بقدر انام
j'arrive même pas à dormir parce qu'il y a beaucoup de trucs sur ma tête donc il y a des choses qui me passent à l'esprit déjà à cause de ma famille qui est dans mon propre pays et à cause de ce que je vis actuellement.
On va peut-être du coup c'est le moment peut-être de parler quels sont les donc là actuellement hein, on vous invite aussi parce qu'il y a un mouvement hein, il y a une lutte qui est en cours notamment avec la préfecture donc de Haute-Garonne mais pas que ce n'est pas que sur Toulouse hein, mais enfin là on parle du cas toulousain donc avec notamment pour éviter les fameux dublinages mais il y a aussi là ça a déjà commencé à poindre d'autres revendications donc c'est à savoir un petit peu quelles sont les attentes et les demandes aujourd'hui des personnes qui sont en CAO.
إنه شيء تحسن بسياو
والله إحنا نتمنى أول حاجة إن يعني العملية بتاعت الأوراق تسرح لنا.
Déjà que la procédure des papiers marche vraiment plus correctement et plus vite.
هي ولينا جو في السياو عشان الواحد نفسيا يقدر يقرأ يقدر يتعلم يقدر يندمج في المجتمع.
Ok et changer un peu les attitudes qui existent dans la CAO genre alimentation et apprentissage de langue.
صح كلام واحد معناها دايرين يساعدونا
عايزين بس يهتموا بينا لانه احنا ما عندنا زول يهتم بينا هنا يعني انا قاعد انا في السكن بتاعي ما عارف ولا يعني هم المسؤولين مني يشوفوني انا يعني واقف وين في جراتي
اوكي
لكن ما فيش حد بيهتم بينا
il y a personne qui nous aide vraiment on a besoin un peu plus de gens qui nous aident parce qu'on a vraiment besoin de cette aide déjà.
Alors là, évidemment, on sent pardon, Ousmane, tu voulais parler.
Les aides de financement qui nous aident, en fait, elles sont très, très, très peu, donc ça peut même pas nous aider à sortir.
بقول لك مثلا المصاريف اللي بدك هذه لفترة 15 يوم أسبوعين.
L'argent qu'ils nous donnent, en fait, c'est juste qui nous suffit juste pour deux semaines et pas pour un mois.
C'est un euro le mois de deux semaines. Tu as kolfia ou tu as chrafia ou l'acteur m'a indiqué. Il est après 15 jours, après tu as le
docteur. Ils nous donnent de temps en temps 60 euros pour deux semaines, en fait. Et donc, c'est un minimum qui nous suffit vraiment pas.
Tous les 15 jours, ils donnent 60 euros, c'est ça?
Oui, c'est ce que j'ai compris.
Voilà. Et l'alimentation, par contre, c'est les repas sont.
4 euros pour la journée.
4 euros le jour, hein, nous précise Sal. Et du coup, par contre, les repas, par contre, c'est au sein des CAO même.
Ils ont
improvisé des cantines. Oui. D'accord. Ok. Alors, on va être obligé de parler de choses un peu administratives, mais c'est là, il disait que ce serait bien que les procédures de papier. Sal voulait intervenir.
يردوك على الشيء وعلى الفلوس، لكن على الأكل الثاني منظمة من طرف حقهم يجي يساعدوك، لكن في النهاية المشكلة شنو؟ الناس عنده فلوس يصرف، يصرف فلوس يدوك على الأوفي. وعندنا مشكلة بتاع أوفي مرة كبيرة.
بس المصاري اللي بيعطوكم إياها ما لها علاقة بالناس اللي بيطعموكم وشربكم. Ok. En fait, il y a une précision, c'est que c'est pas la CAO qui nous offre de l'alimentation, c'est des autres organisations, des collectifs qui nous les aident. Et c'est pas la CAO. Voilà.
D'accord. Alors ça, c'est des, peut-être Sandra, toi tu le sais, c'est des collectifs mandatés par l'État ou oui. C'est des collectifs de soutien.
Du coup, c'est plutôt des je crois que c'est le Secours populaire qui vient.
Oui, d'accord, des entreprises de charité, oui, d'accord.
Oui, c'est ça, voilà. Et avant, en effet, ce qui est... dans certains CAO, ils avaient 4,20€ par jour pour pouvoir s'acheter un peu l'alimentation qu'ils voulaient, parce que du coup, avec ces organismes-là, en effet, ils ne peuvent pas s'acheter ce qu'ils veulent. Parfois, c'est quand même aussi de l'alimentation périmée. Sauf que donc, ces 4€ par jour qu'ils avaient, aujourd'hui, leur a été enlevé.
D'accord. Alors, on va revenir sur les procédures pour les papiers. Donc là, vous êtes arrivés dans les CAO, tous. Et au début, il y a eu un suivi directement où on vous a tout de suite dit on va appliquer la procédure Dublin. Comment ça s'est passé l'accueil? Là, vraiment d'un point de vue administratif, c'est ça la question, Malek.
Le morceau de toi à la CAO, de votre chant, quand l'estébal, mais n'a pas idarié. Elle fait l'amour quand tu me rattabes idarien, rire le mouamale. Idarien quand nous me rattabien.
وقد جينا في اول قام مرتبين الامور يعني قابلنا
tout était bien arrangé au début.
ايوه رحبوا بنا انه مرحب بكم ونعمل لكم الاجراءات حافي اسرع زمن.
On était promis par plein de trucs.
ايوه كل حاجه ان شاء الله حيكون مسهله بالنسبه لكم. احنا قاعدين شهر ما عملوا لنا اي شهر.
وزير طولوز جانا هنا استقبلنا وقال اجراءاتكم كلها تماما.
الرئيس بلديه تبع طولوز. Il nous a dit que, en fait, il nous dit que le maire est venu nous voir aussi. Il est arrivé une seule fois, puis après, on ne l'a plus vu. Et toutes les promesses qui ont été dites, on les a vues au début, mais après, ensuite, tout était...
Oui, évidemment, après, c'est le travail de l'ombre. Et du coup, donc, c'est quoi ils organisent des... Il faut qu'ils aillent à la préfecture régulièrement, ou est-ce que c'est des gens qui viennent dans les CAO pour faire le suivi de leur dossier?
Mina, vous avez besoin d'entrer à la préfecture, ou vous avez besoin d'entrer à la préfecture, ou vous avez besoin d'entrer à la préfecture? On y va tout seul pour aller à la préfecture, ou avec des gens, des bénévoles.
Oui, donc des comités de soutien, en l'occurrence. Hein, donc ça, c'est pas organisé par les CAO, d'accord?
Voilà. وفي شيء تاني عم بساعدوكم الوراء يعني سيئة وعب تقدمكم خدمات
سيئة معناها أنا أدونه سيئة قاعدين بس الأوفيس هناك ما شغالين بس في الأسبوع يدوك على الفلوس لما نجا إني بوستا أدرس يدوك أدونه تاني ما شفتها شيء أنا في سيئة هذه في
المكان. أوكي. En fait, la CAO nous a envoyé à l'OFI pour faire des papiers. Ensuite, dès que ça a fini, en fait, il y a toujours un circuit de vide qu'on se perd à chaque fois pour faire les papiers. On n'arrive pas à comprendre où aller. Où, en fait. Si on pose pas la question, en fait, ils nous laissent tranquillement sans aucun avancement dans le procès. Pour les
D'accord. Donc on comprend qu'il y a pas de suivi spécifique et ça veut dire que il y a pas qu'ils soient en CAO ou que ce soit des gens là qui seraient arrivés par tout biais, qui ne seraient pas passés par Calais, c'est pareil. Ils doivent en fait un peu s'il y a pas des collectifs de soutien, ils sont obligés de se débrouiller en fait, c'est ça.
Ils ont marqué une organisation تساعد كون معناتها انتو كنتو مجبرين لحالكم تروحوا تدبروا حالكم يعني. Okay. Oui, s'il n'y avait pas de collectif, on était complètement perdu.
D'accord, mais alors...
Ah, c'est même nous qui a contacté plusieurs collectifs. En fait, ce n'est pas les collectifs qui nous a proposé les aides, c'est nous qui a vraiment, comme on dit, frappé la porte.
Frapper à la porte et être allé chercher d'accord, des soutiens. Du coup, évidemment, dans ces conditions-là, on ne voit pas très bien comment l'État pouvait tenir sa parole. On rappelle que donc, ils ont dit aux migrants, au moment du démantèlement des camps de Calais, vous ne serez pas dublinés, donc on n'appliquera pas la procédure Dublin, on ne vous renverra pas dans le premier pays d'Europe où vous êtes arrivés. Mais là, je ne vois pas très bien comment c'est possible, puisqu'en fait, du coup, à la préfecture ou dans ces bureaux-là, on ne sait pas du coup les personnes, si elles sont en CAO ou pas, si elles arrivent de Calais ou pas, là, visiblement.
Oui, oui, en effet, il y a un flou là par rapport à leur arrivée. Alors, ce qui a été compliqué aussi, c'est qu'en fait, les CAO étaient complètement invisibles sur Toulouse. C'est aussi la première démarche du collectif Solidarité Migrante. Ça a été au moins d'essayer de repérer où étaient ces CAO pour savoir où les personnes arrivant de Calais avaient été hébergées et d'établir un premier contact avec les travailleuses sociales qu'il y avait dans ces CAO. Et ensuite, en effet, les personnes accueillies dans les CAO ont recontacté ce collectif dont ils font partie, en fait. Hein, ils sont à part entière dans ce collectif. Et cette invisibilité des CAO a fait qu'en effet, ça a fait traîner aussi le temps de la prise de contact et les démarches les concernant, en tout cas.
Est-ce que dans les personnes arrivées dans la CAO, il y a déjà eu des personnes expulsées ?
Alors, pas sur Toulouse, du coup. Il y en a eu ailleurs en France. J'ai un exemple de 3 Soudanais à Besançon qui ont été expulsés. Sur Toulouse, il n'y a pas eu. Et pour le moment, il y a une petite évolution par rapport aux procédures Dublin, là, concernant les CAO de Haute-Garonne.
Je demande ça parce que j'ai l'impression que ce processus d'invisibilisation, il avait peut-être aussi pour but de pouvoir expulser des gens dans l'indifférence générale. Mais ça n'a pas été le cas à Toulouse.
Bah, ça a été notre crainte, en tout cas. Ensuite, très vite, s'est organisée une pression auprès de la préfecture. On ne sait pas trop quel poids ça a pu avoir, mais en tout cas, dès l'instant que les contacts ont été pris entre les collectifs de soutien et les CAO, et donc les migrants accueillis dans les CAO, je pense que du coup ça rendait moins visible, enfin plus visible pardon, ce qui s'y passait, et donc moins possible l'expulsion comme ça facile, quoi.
D'accord.
En catimini.
Je sais pas, Ben, si tu voulais continuer sur les CAO. En fait, moi, c'était l'occasion de comprendre comment s'était monté ce collectif de solidarité et d'où ça venait, quoi. Comment ça s'est passé, en fait?
Eh ben, donc, ce collectif s'est créé donc suite au démantèlement de la jungle de Calais, quand donc il a été dit que dans toute la France, des migrants et migrantes allaient être dispatchés. En Haute-Garonne, il y en a 200 qui sont arrivés. Et donc, ce collectif s'est créé dans une première démarche de prendre un contact pour savoir en effet comment ils étaient accueillis, qu'est-ce qui s'y passait et qui les accompagnait dans leur démarche de papier à ce moment-là, en tout cas. Donc, le collectif s'est créé en effet en octobre 2016 et a ensuite eu un point d'ancrage au CSA, donc au Centre Social Autogéré, pour permettre une visibilité en tout cas auprès des migrants et migrantes pour qu'ils puissent venir à notre rencontre. Donc ça, c'est le tout début de la création du collectif Solidarité Migrante. Ensuite, ça a vite pris des formes concrètes en termes de soutien par rapport aux démarches papier, de soutien par rapport à comment dire, des fonds financiers, par exemple, pour des tickets de métro, des choses très pratico-pratiques, pour de l'alimentation, ce genre de choses. Les moyens de transport, par exemple, où voilà, il a été possible de faire des récupérations de vélos, où eux ont réparé des vélos pour être autonomes dans leurs déplacements. Donc voilà, des démarches pour l'université également, où des prises de contact ont été faites. Et dans les, comment dire, répertorier aussi les lieux pour les soins médicaux, des lieux gratuits où ils pouvaient se rendre, par exemple. Voilà, donc ça, c'est le démarrage du collectif.
Oui, parce que c'est ce que disait Sahal tout à l'heure. Finalement, l'aide filée fournie par les CAO, elle est vraiment sommaire, comme s'il disait, hein, comme si ils étaient là depuis des années sur Toulouse, alors que non, ils connaissent rien, ils connaissent personne, ils connaissent pas les lieux. Et puis on voit bien qu'ils sont pas, au centre-ville. Hein. On parle de la Vache, on parle des Pradettes.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Rien que la base de un plan de la ville, par exemple, ne leur a pas été fourni. Il y a eu plein de tout petits détails comme ça qui fait que l'accueil est quand même pour eux très compliqué. L'orientation dans la ville, ils connaissent pas les lieux, ils ont pas d'argent, donc tous les lieux gratuits en termes de culture ou enfin même pour l'alimentation, pour tout ce qu'ils veulent, en fait ils savent pas où c'est. Et le problème, c'est que dans les CAO, elles sont pas assez nombreuses pour fournir cette aide là en fait.
Alors du coup, comment vous y êtes pris en fait pour trouver ces CAO, puisqu'il y avait aucune info sur le sujet au départ, premièrement, et puis deuxièmement, qui sont ces gens de ce collectif? Enfin, pas, je peux pas des noms, mais c'est des gens qui étaient déjà militants, militantes, et enfin voilà, d'où ça sort, quoi, un peu.
Du coup, ça a été... Alors, Comment dire, par rapport à comment trouver les CAO, ça a quand même été en grattant au final sur Internet, puisque ça a été des réponses à des appels d'offres par rapport à la création des CAO. Donc de fil en aiguille, ça a été possible de remonter les filons et de retrouver où est-ce qu'il y en avait. Et après, une fois qu'on trouve un CAO, on peut en trouver deux, trois, puisque certains liens entre eux avaient existé, en tout cas entre les migrants et migrantes. Et puis les travailleuses sociales pouvaient aussi, pour certaines, nous donner des infos sur les autres CAO existants. Donc ça a été la prise de contact. Et après, les personnes du collectif, c'est donc les migrants et migrantes, puis après des individus qui en effet sont des militants qui ont pu faire partie de d'autres collectifs de soutien aux migrants-migrantes par avant, dans d'autres villes, etc. Mais il y a aussi la Ligue des droits de l'homme, il y a aussi des gens de Cercle des voisins, il y a, voilà, il y a plein de personnes qui se relient dans ce collectif, en fait, et plein d'individus qui ne font partie d'aucun collectif non plus, en fait.
Juste pour préciser, le Cercle des voisins, c'est le Cercle des voisins de Cornebarieux, donc qui se trouve à côté du centre de rétention administrative, qui n'a rien à voir avec les voisins vigilants.
Oui. Oui, en effet.
C'est juste tout l'inverse.
Oui, c'est ça.
C'est Cornebarieux, mais en fait, il est au bout de la piste de l'aéroport. Hein. Ça, ouais. Ça change de commune, mais en fait, c'est vers Blagnac. Hein. Comme ça, il n'y a même pas besoin de passer par l'extérieur pour les amener. Quand on veut les expulser, on peut les amener directement jusqu'au terminaux. Tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas eu d'expulsion. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sortis des CAO, c'est-à-dire peut-être déjà partis en CADA ou partis, hélas, en centre de rétention, des choses un peu plus...
Alors,
CADA, je le rappelle, un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une demande d'asile acceptée.
Alors, à notre connaissance, parce que c'est pareil, hein, il y a des CAO où les portes ne nous sont pas ouvertes, donc on ne sait pas ce qui s'y passe à l'intérieur. Dans ceux avec lesquels on est le plus en lien... On sait que des gens sont partis parce que les conditions de leur choix, parce que les conditions d'accueil n'étaient vraiment pas convenables. Donc ils ont décidé de partir du CAO pour retenter un passage au Royaume-Uni. Donc ils sont partis de la Haute-Garonne. Ensuite, en centre de rétention, pas à ma connaissance, mais c'est pareil, c'est pas une certitude puisqu'on ne sait pas tout ce qui se passe. Et il y a aussi des gens qui ne sont pas accueillis dans les CAO et qui sont dans des squats sur Toulouse. Et les concernant, c'est pareil, on n'arrive pas à avoir une visibilité très claire sur qu'est-ce qui leur arrive, en fait.
Du coup, même question à Ahmed Sahal et Ousmane, ils ont des camarades ou des personnes qui sont partis des CAO, soit parce qu'ils ont été envoyés ailleurs, soit parce qu'ils sont partis, ils se sont en allés d'eux-mêmes.
في ناس تركوا السياو لأنه إجاهم مكان أحسن ولهنا حبوا يتركوا أو الاثنين سوا
تركوا المحل ما جاهم مكان أحسن ولا تركوا المحل زهجوا من الوضع شافوا الوضع سيء جدا تركوا المحل وذهبوا
راحوا لوين
ما معروف
okay. Y a des gens qui étaient avec nous en fait à la CAO et qui ont quitté ils ont rien trouvé mais on sait nulle part où ils sont y allés Quand on est arrivé à Calais pour la procédure, et il y en a beaucoup qui sont arrivés avec nous en fait ici à Toulouse et les plupart d'eux sont à la CAO et les autres sont allés nulle part dans des collectifs pour qu'ils les aident.
D'accord. Alors, on parlait tout à l'heure donc, de ce mouvement qui a permis des reculs sur la procédure Dublin. Là, actuellement, vous êtes, les personnes qui sont ici, vous êtes assurés que vous ne serez pas dublinés, que vous n'aurez pas de procédure Dublin ?
في خايفين من دبلن وفي مشكلة في الإجراءات معناها ما شغالين كويس يا أخي
Okay. En fait, ce qui nous inquiète le plus, c'est que la procédure ne marche pas vraiment correctement, parce que en fait, tout ça prend du temps. Et dès qu'on se met en question, est-ce que la procédure de Dublin va fonctionner dans nos démarches, donc cela nous pose encore plus de problèmes à penser. Et on tombe toujours dans le même cercle, en fait, ou le cercle perdu.
Oui, perpétuel, oui, d'accord.
Finalement, c'est un mana في كالي. عملوا جراتهم هناك في كالي. وجوه هنا لحد الآن قاعدين ما عارفين جراتهم فشل حلوين.
Ok. Il y a des gens qui étaient à Calais aussi, qui sont arrivés à Toulouse, comme mon cas, et mais ils savent pas où ils sont en fait avec leurs papiers. En fait, à chaque fois, ils se demandent des questions, mais ils savent pas comment en fait tout ça va s'arranger.
Oui, tu ne sais pas à quelle étape. Donc là, c'est Ousmane qui témoigne. Tu ne sais pas à quelle étape on en est, c'est ça? À quelle étape de la procédure?
بالضبط في ناس مو عارفين بأنو مرحلة هن بالإجراءات ما هيك.
ما عارفين.
Ils n'en savent rien en fait.
ما عارفين حاجة.
On attend, on fait qu'attendre en fait et entendre les promesses.
D'accord. Et donc là, l'idée c'est d'avoir pour. Ce serait réussir à être. Donc avoir la demande d'asile acceptée, c'est ça l'idée pour vous trois. Ce serait d'avoir des papiers et surtout un statut de réfugié.
Oui. Pour nous, ce sera vraiment. Le jour de la fête.
On se fait, on va continuer dans quelques instants, mais on va se faire une petite pause musicale et on revient après dans le magazine de Canal Sud.
Tiken Jaffa Coli, ouvre les frontières.
Ah, c'est bien, on n'écoute pas beaucoup de reggae dans ce magazine.
Comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Encore un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté.
Ni même une goutte de pluie, tout au fond du puits. En levant très vite sur le chemin de l'école, un beau jour il décide de prendre son envol. Prépare un voyage et on se jette dans l'eau.
Laissez-nous passer.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Petit Kenja Fakoli, ouvrez les frontières. Je crois que depuis qu'on fait le magazine, Julien, c'est la première fois qu'on écoute du reggae. Alors, on est toujours dans le magazine et on est toujours avec Sandra du collectif Solidarité Migrants, Migrantes 31, avec Malek qui est venu faire la traduction et avec Ahmed, Sahal et Ousmane qui sont actuellement hébergés dans un des centres d'accueil et d'orientation de la ville de Toulouse après avoir passé entre 3 mois et 1 an dans les camps de Calais. Alors, on va revenir un petit peu sur cette histoire de procédure Dublin. Donc, dernier rappel, la procédure Dublin, c'est une procédure qui permet aux pays européens de renvoyer les migrants dans le premier pays où ils ont été repérés, le premier pays européen où ils ont été repérés. Donc là, dans le cas, en l'occurrence, de Ahmed, Sahal et Ousmane, c'est l'Italie. Hein, ce serait là où ils seraient renvoyés éventuellement. Cette mesure, donc déjà, et évidemment, il y avait une promesse de non, on n'utilisera pas la procédure Dublin, mais comme tu le disais, Sandra, hors antenne, y a pas de, c'est une promesse qui a été faite, mais il n'y a pas de procédure écrite, il n'y a pas de protocole, enfin bon voilà, hein, c'est une promesse comme ça, un peu en l'air de l'État, et surtout quand les personnes, on leur dit vous n'allez pas être dublinés, même individuellement, il n'y a pas de papier écrit.
C'est ça. En effet, du coup, là, on peut observer que certaines personnes ne sont plus en procédure Dublin. Donc, il y a eu des rassemblements, des manifestations qui ont été organisées.
Le 22 décembre. Hein.
C'est ça. Et donc, une délégation a été reçue à la préfecture avec cette revendication-là de tenir la promesse de ne pas dubliner les migrants et migrantes.
Alors, délégation du collectif avec des migrants qui étaient représentés ou qui étaient là eux-mêmes.
C'est ça. Oui, tout à fait. Il y avait, en effet, trois soutiens. Il y avait un avocat dans les soutiens, il y avait deux personnes du collectif et deux migrants qui étaient là dans la délégation. Du coup, en effet, à cette délégation a été demandé le fait de ne plus dubliner, enfin de ne pas d'annuler cette procédure Dublin par rapport à la promesse qui a été faite à Calais. Donc, on ressort, enfin, les gens ressortent de cette délégation avec aucune promesse écrite, ni même rien de satisfaisant. Ils ont juste dit à cette première délégation, on ne renverra pas les gens contre leur volonté. Or, c'est complètement incohérent avec le fait d'être dubliné, puisque quand on est dubliné, on n'a pas envie de revenir dans ce premier pays. Donc, on est ressorti, c'était pas du tout satisfaisant. Puis d'autres rassemblements ont été organisés avec une autre délégation reçue, toujours avec cette même pression de demander le dédublinage. C'est pas un mot qui existe, je pense, dédublinage, mais on comprend quand on l'utilise. Et donc là a été faite la promesse de ne plus, d'annuler ces procédures. On s'est rendu compte, en effet, que le lundi de cette semaine-là des rassemblements, certaines personnes n'étaient plus en procédure Dublin.
C'est-à-dire qu'ils sont revenus à la préfecture et là, d'un seul coup, on leur parlait plus procédure Dublin,
c'est ça. Donc, ils ont une attestation quand ils font une demande d'asile. Ils ont une attestation qui justifie, enfin, qui montre procédure Dublin. Attestation de demande d'asile avec procédure Dublin. Et ensuite, quand ils sont revenus, après un entretien avec la préfecture, certains sont passés en procédure normale ou en procédure accélérée. Donc là, c'est pareil, on repart avec une promesse orale de la préfecture de ne plus dubliner les gens. Mais en vrai, on n'a rien qui l'écrit, on n'a rien comme trace écrite et comme preuve. Donc là, on observe pour le moment que des personnes ne sont plus dublinées, mais ce n'est pas suffisant puisque tout le monde ne l'est pas et qu'on ne sait pas combien de temps ça va demander et que les gens restent pendant 2 mois, encore 6 mois. Il y a une personne à qui on a dit 6 mois d'attente et 6 mois sans savoir s'il sera expulsé au bout des 6 mois.
Alors, tu disais que donc un certain nombre de personnes, quand elles ne sont plus sous le coup de la procédure Dublin, elles peuvent être envoyées vers une procédure normale ou une procédure accélérée. On précise un petit peu ce que c'est, ça, peut-être.
Du coup, quand on n'est plus en Dublin et qu'on passe en procédure de demande d'asile, donc qu'elle soit normale ou qu'elle soit accélérée, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ils ont 21 jours pour constituer un dossier de demande d'asile auprès de l'OFPRA. La différence entre ces deux procédures, c'est que la procédure normale, une fois qu'ils ont envoyé ce dossier, l'OFPRA a 6 mois à peu près pour étudier la demande d'asile et mettre en place un entretien avec la personne. Et ensuite, en cas de recours, si la réponse est négative, en cas de recours, c'est une collégiale de juges qui prend la décision. Or, en procédure accélérée, une fois que le dossier est envoyé à l'OFPRA, l'OFPRA n'a que 15 jours pour statuer sur un oui ou sur un non par rapport à la demande d'asile, ce qui est très court concernant tous les récits de vie et les situations compliquées et le parcours complexe des personnes.
Oui, c'est forcément une prise en compte extrêmement succincte.
Tout à fait. Et de mettre en place en plus un entretien, puisque c'est l'OFPRA reçoit individuellement les personnes pour vérifier la véracité des propos qu'ils ont écrits dans le dossier de l'OFPRA. Donc en 15 jours, ils doivent organiser ça. Et donc si la réponse est négative et que la personne fait un recours, c'est 5 semaines, l'OFPRA a 5 semaines pour réétudier ce dossier, et c'est une seule personne, un seul juge et non plus une collégiale qui va décider du sort du migrant ou de la migrante dans le cas de la demande d'asile. Ce qui fait que nous, les procédures accélérées, en vrai, c'est caché sous... la préfecture peut cacher cette procédure accélérée en nous disant c'est bénéfique pour les migrants et les migrantes parce que du coup, ils auront une réponse plus rapide. En vrai, la vraie crainte et ce qui se vérifie quand même, c'est que ça débouche sur un non, les procédures accélérées, puisque le dossier n'est pas du tout suffisamment étudié. Donc là, la revendication pour ceux qui passent en procédure accélérée maintenant, c'est de rebasculer en procédure normale.
Parce que ouais, du coup, ça fait un peu un parallèle avec les comparutions immédiates pour ce qui est de la justice. C'est un peu l'industrie du « on envoie tout le monde en prison ». Là, c'est un peu l'industrie de « on expulse tout le monde ». Juste ces procédures-là, qui décide qu'elle est accélérée ou pas? Est-ce que c'est au niveau de la demande que ça se passe, ou c'est la préfecture qui dit « là, on va faire une procédure accélérée, là, on va faire une procédure normale »
Alors, c'est la préfecture qui décide suivant des critères. Que je n'ai plus tout en tête, les critères, mais par exemple, si les empreintes digitales sont inexploitables, par exemple, ou si ils ont repéré un mensonge dans le récit de vie, ou si, quoi d'autre encore en procès, s'ils sont sur le territoire français depuis plus de 120 jours avant d'avoir fait leur demande d'asile. Enfin voilà, il y a des critères comme ça qui fait qu'ils passent en procédure accélérée.
Ok.
Alors une dernière question peut-être sur la pour vous Ahmed Sahal et Ousmane, vous aviez commencé des procédures judiciaires, des procédures administratives lorsque vous étiez à Calais, ou à ce moment-là vous vouliez juste partir vers le Royaume-Uni et vous n'aviez pas commencé les procédures?
Là je suis là tout le jour, là ma كنت في Calais ou là ma وصلت لهون, là ma كنت في Calais كان بس هم كنت روح على بريطانيا.
انا حسي سالت في Calais على اللجوء. لكن أحد الوقت في كالي البروفيكتور قفل في يعرف كثيرين ناس داير يسأل أجل في كالي لكن البروفيكتور قفل ما شغل كان.
On a vu quand on était à Calais faire la demande d'asile, mais la préfecture était presque fermée pour nous, il n'y avait plus de place.
D'accord. Et donc là, vous êtes parti de zéro. Quand vous êtes arrivé au CAO, il a fallu faire le dossier à partir du début. C'était comme si vous veniez d'arriver, quoi.
لما وصلت على CAO هنا حاولت تبلشوا من الصفر يعني هون أبلشوا إجراءاتكم من جديد هون. Oui, c'est ici qu'on commence à tout faire.
D'accord. Bon, écoutez, on va parler maintenant un petit peu des rendez-vous à venir avec le collectif Solidarité Migrantes 31. Il y en a plusieurs, mais déjà pour commencer, il y a une permanence tous les samedis au CSA.
Oui, c'est ça. Tous les samedis, le collectif se retrouve à 14h, 15 rue Roquelaine, au centre social autogéré.
D'accord, vous y serez? Vous y venez à la permanence du samedi?
Toujours à la Mouzahara, je vais être le samedi.
Okay.
Oui.
D'accord. Non. Ça a déjà démarré, non?
Oui, bien sûr. Ça fait ces permanences-là, qui est une réunion et une permanence juridique en même temps avec des avocats, ont commencé il y a 2 mois.
هالملاحقات بلشت من تقريبا من شهرين تقريبا. فملاحقات تبع الأوراق والمحامين إلى آخره.
المشكلة أنا معناه ما نفهمك كويس
بعد المظاهرات بدأت
يعني. نو عم بحكي عن الإجراءات هلا، عن الإجراءات تبع القانونية تبع الأوراق. بعد شهرين في مثل اجتماع يعني.
أوكي.
Ok, ils seront.
Mmh. Ouais, oui. Ils y sont déjà, en fait.
Ils y sont déjà, oui, tous les samedis.
D'accord. Donc ça, c'est à 14h au centre social autogéré. On le rappelle, c'est 15 rue Roquelaine. C'est dans le quartier du côté de métro Jeanne d'Arc.
Tout à fait.
La même rue que Samba Rési, pour ceux qui connaissent. Et alors, on avait annoncé hier un rassemblement pour le 2 février, donc pour ce jeudi. Mais ça, non, en fait, ça a été annulé pour le moment. Hein.
Oui, en
effet. Mais il y en a un le 18 février, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça, c'est tout à fait ça. En effet, celui du 2 février a été annulé puisque... on est plus sur l'organisation suite à un retour d'un week-end à Caen, un week-end national qui regroupait plusieurs collectifs de soutien aux personnes migrants et migrantes. Du coup, suite à ce week-end à Caen, un autre week-end a été organisé, celui du 17, 18 et 19 février, où il se passera des choses dans toute la France. Et donc, à Toulouse sera organisée une manifestation le samedi 18.
Et donc, avec les revendications qui sont... Donc déjà, bon, on a parlé de Dublin évidemment, mais j'imagine que c'est pas les seuls.
Alors, il y aura en effet la revendication principale qui est par rapport à casser les procédures Dublin, passer en procédure normale et les conditions d'accueil dans les CAO, ainsi que les versements de l'ADA, qui est leur versement d'argent en tout cas, parce qu'en fait, ça ne leur est pas viré tous les mois.
Ah, c'est pas, donc c'est non seulement c'est faible, hein, comme le disait tout à l'heure Sahal, mais en plus c'est même pas régulier.
C'est très aléatoire, oui.
D'accord.
Du coup, voilà, il y aura plusieurs revendications. Et puis ensuite, suivant les CAO, il y a des revendications plus précises par rapport aux conditions d'accueil, ce genre de choses, l'accompagnement aux soins.
D'accord. Manifestation donc le 18 février, redis l'heure et le lieu.
Ce n'est pas encore défini.
Ah d'accord, tu ne l'as pas dit en fait. Bon, d'accord, okay. Je croyais que ça m'avait échappé.
Non.
Donc bah, on redonnera l'information évidemment.
Ce sera précisé justement à la réunion de ce samedi-là.
Ouais, c'est encore dans un petit moment, on aura le temps de le redire. Et il y a également une soirée qui se prépare également pour le CSA, ce sera le 17 février.
C'est ça, au CSA du coup, le 17 février à partir de 20h, avec donc les migrants, est organisée une soirée de soutien à base de repas soudanais et afghans et de la musique. Donc certains joueront de la musique, ce sera un peu en mode open mic, et une playlist est en cours de construction.
Donc le 17 février au CSA à partir de 20h, repas soudanais, ça veut dire Ousmane, tu vas faire la cuisine ?
Oui, c'est moi qui vais préparer.
C'est vrai ? Ah bon, ok. D'accord. Tu cuisines bien ? Moi, je n'ai jamais mangé soudanais, voilà. Bon, donc, okay. Si on veut découvrir la bouffe soudanaise, ce sera le 17 février au CSA, 15 rue Roquelaine. On vous redonnera évidemment ces rendez-vous dans le magazine et sur le site de Canal Sud. Et évidemment, tu le disais tout à l'heure, Julien, sur les sites d'information de médias libres toulousains comme yata.info. Merci à tous d'être venus. On précise quand même, parce qu'on l'a dit hors antenne, évidemment, Ahmed Sahal et Ousmane viennent d'un même CAO, donc ils ont témoigné d'un CAO, mais la situation peut être différente dans d'autres CAO. Hein, tu nous le disais hors antenne, Sandra, certains n'ont pas de cuisine, par exemple, certains CAO n'ont pas de cuisine.
Oui, c'est
voilà.
Ça. Oui.
Donc évidemment, là, ça n'est qu'un témoignage de trois personnes dans un même CAO. Hein. Évidemment, c'est pas la réalité de tous les CAO en France. Voilà. Merci beaucoup d'avoir fait la traduction, Malek.
Merci.
Et merci à vous. Thank you.
Merci.
Et écoutez, on vous souhaite chance et courage pour la suite de ce combat et pour votre parcours personnel et collectif. On va se mettre un petit peu de musique. On va se quitter avec un petit peu de musique. Qu'est-ce que tu nous proposes, Julien ?
Billy Breloque, 12-01-2011.
Ah, écoutez, Billy Breloque, ça fait toujours plaisir.
C'est une vague sans précédent qui s'empresse et sort les dents, qui se dépêche, qui se défend et qui se dit prête à sauter dedans. Et s'il faut le faire à coups de pierre, la foule en fait son affaire et fonce d'une force de fer. C'est ça un vrai départ en guerre. Des daronnes, des darons, des banderoles, des cartons, des mots d'ordre fait maison et le tel bord prend du galon. Le peuple encercle un palais qui ne dort pas et fait péter le couvercle de la boîte de Pandore. À 17h, les militaires jouaient les médiateurs, c'est te dire l'humeur amère et les aigreurs du parterre. La chaleur, son cratère, la teneur, ses manières, sonne l'air et l'heure et la colère du rouleau compresseur. Il te push, c'est officiel, il te couche, prends ta pelle, creuse ton trou, ferme ta gueule, puis lèche le boule de leur gueule. Trouble, éclat, coup d'état ou dictat du prolétariat, appelle ça comme tu voudras, les gars sont juste en bas de chez toi. Penali, descend, allez, descend, descend maintenant, les mecs qui sont bouillants. chaque coulis de kill de cocktail de Vessie. Sans deviner compromis, c'est Kaya frais sur le pont-levis. On est vendredi et ça sent crépit. Et l'envie de vous clouer au pilori. Mais la France propose ses services, le savoir-faire de sa police. Serrer la vis, pousser le sévice à ses novices de Tunis. Dresser le phénix, sale salam alek, l'ombre chassec, pendant qu'il lui galoche la schneck. La France finira au rasoir, c'est pas le destin, pas le hasard. Le roi est mort ce soir et le peuple criait l'histoire. La France finira au rasoir, c'est pas le destin, pas le hasard. Le roi est mort ce soir et s'est planté dans ma mémoire. Mes yeux et mes oreilles s'en souviennent, parce que ça, ça a de la dégaine. Parce que leur date, c'est la mienne. Alors faites-moi plaisir, si vous croisez les mecs de Tunis, dites-leur psartek, dites-leur merci. Et dites-leur que je vous ai personnellement mandaté pour leur dire qu'il y a de la place en France, il y a de la place en France, il y a trop de place en France. Dites-leur que ça rentre, dites-leur que ça passe, dites-leur qu'il y a de la place, dites-leur qu'il y a de la place. Dites-leur que ça rentre, dites-leur que ça passe, dites-leur qu'il y a de la place.
Il y a de la place en France, dites-leur que ça rentre. Billy Breloque, 12-01-2011. Tu avais une petite annonce à nous faire ?
Oui, juste une petite précision. Donc, on parlait de la soirée organisée par le collectif Soutien Migrants-Migrantes 31 le vendredi 17 février au Centre Social Autogéré. Juste avant, le même jour, il y aura une rencontre avec Assia Zeno, auteur d'un livre sur les prisonniers palestiniens. C'est organisé pour le collectif Coup pour Coup 31. Donc voilà, ce sera la même soirée, au même lieu. D'abord, cette rencontre avec Assia Zeno autour de la question des prisonniers palestiniens. Et après, cette soirée de soutien avec une bouffe soudanaise qui a l'air pas mal. Ousmane était en train de nous faire un peu la recette qu'il allait faire. Ça a l'air chouette.
Une soirée qui promet, du coup. Et pour cet après-midi, à 14h, Radio Climat ça chauffe, qui vient nous faire son émission sur le réchauffement climatique jusqu'à 14h30. On n'a pas de rediff de Route 66 aujourd'hui, donc ça sera de la musique jusqu'à 16h avec la diffusion de Vivre avec le Sida. Et à 17h, l'éternel Manu pour le Dixie Bob Show. Et ce soir, à 20h, Décolonisons, on en parlait hier avec Linda, qui viendra nous parler de France-Afrique. Et puis la soirée se continue avec d'autres programmes dont je ne saurais vous dire les noms.
Si on se quittait avec Juliette, puisqu'on a un peu de temps, ça...
Eh ben moi, j'avais une autre idée.
Ah, t'as une autre idée, avec quoi on va se quitter alors ?
Ben moi, j'ai bien envie de mettre un petit taquet à Florian Philippot, qui était l'invité de France Culture
ce
matin.
Ah oui, c'est vrai que t'avais préparé ça.
Et du coup, on va s'écouter La Canaille, Jamais Nationale.
Cette voix dégueulée sur les ondes, cette voix venue tout droit du territoire des ombres, cette voix immonde qui prend du poids et des galons, qui sait comment se faire mielleuse pour séduire dans les salons. Cette voix aux multiples gorges qui se décharge, habitée d'une haine si virulente qu'elle en éberge. Du cadre à l'ouvrier jusqu'au commissaire, cette langue de vipère s'accommode très bien de la misère. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non, pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés. Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal, mon identité ne sera jamais nationale. Cette voix sinistre et d'humeur assassine, elle s'évertue à plonger la tête immigrée dans la bassine. Déteste ses racines, traque son taux de mélanine, reproche l'odeur de sa cuisine ou la largeur de ses narines. Le traite comme un danger, roule son nom dans la farine, ses théories sont consanguines, parle de flingues, de carabines. Défend une France en blanc ou en bleu marine, alors le port et sa portée de goresse enlèchent les babines. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non, pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés. Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal, mon identité ne sera jamais nationale. Cette voix n'a pas de couleur comme la connerie ou l'ignorance, elle puise sa force dans la douleur, l'humiliation et les offenses. C'est l'éloquence pour nous monter les uns contre les autres, elle te rabâche en continu qu'il y a l'étranger et il y a les nôtres. Mon identité elle est plurielle, elle est changeante et heureusement, elle n'hésite pas à prendre la tangente. Elle s'inspire de toute culture, s'inspire de tout étoile. Elle a les bras ouverts et considère tout homme à son égal. Mais cette voix veut me tirer vers le fond. C'est cette voix encore une fois que je combats sans rémission. Dressé contre son ordre, contre sa morale, mon identité ne sera jamais nationale. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Donc pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés. Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal. Mon identité ne sera jamais nationale. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Donc pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés. Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale.
Jamais nationale, la canaille. Ça finit avant la fin, ça c'est marrant. Bon, on va quand même s'écouter Juliette parce qu'on a un peu de temps. Allez, sans retour. Allez, c'est parti.
Ce que j'oublierai, c'est ma vie entière. La rue sous la pluie, le quartier désert, la maison qui dort, mon père et ma mère. Et les gens autour, noyés de misère, en partant d'ici, pour quel paradis ou pour quel enfer. J'oublierai mon nom, j'oublierai ma ville, j'oublierai même que je pars pour l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de la poche, un peu d'argent pour un ticket de train. Aller sans retour, aller sans retour. J'oublierai cette heure où je crois mourir. Tous autour de moi se forcent à sourire. L'ami qui plaisante, celui qui soupire. J'oublierai que je ne sais pas mentir. Au bout du couloir, j'oublierai de croire que je vais revenir. J'oublierai même, si ce n'est pas facile, d'oublier la porte qui donne sur l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de sa poche, un peu d'argent pour un ticket de train. Aller sans retour, aller sans retour. Ce que j'oublierais si j'étais l'un d'eux, mais cette chanson n'est qu'un triste jeu. Et quand je les vois passer dans nos rues, étranges étrangers, humanité nue, et quoi qu'ils aient fui, la faim, le fusil, quoi qu'ils aient vendu, je ne pense qu'à ce bout de couloir, une valise posée en guise de mémoire.